Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
La première fois que j'ai rencontré David Dufresne, c'était il y a presque 10 ans. On avait été invité à une réunion par les fondateurs du Tigre, et c'était un journal mensuel très littéraire, très beau, qui voulait passer en quinzomadaire. Alors pendant toute la réunion, David leur avait expliqué qu'il trouvait ce rythme absurde. Personne n'achète, selon lui, un journal tous les 15 jours. Il avait répété 10 fois de suite, de manière assez véhémente. Et à la fin de la réunion, en sortant, il m'avait dit « Bon, j'espère que j'ai pas été trop dur, parce que vraiment, je les aime bien. » Le lendemain, il m'a envoyé un texto. Bon, ben, ils veulent pas que je revienne. Voilà, il est comme ça, David Dufresne. C'est un affectif radical et c'est assez beau chez lui. Mais si il avait été invité à cette réunion du Tigre, c'est aussi parce que David Dufresne, c'est un expérimentateur. Bien sûr, il a toujours écrit des livres sur le maintien de l'ordre, sur Tarnac, sur Pigalle, plus récemment sur Jacques Brel, mais il s'est très vite intéressé au web. À Libération d'abord, puis en créant un fanzine en ligne qui s'appelait La Rafale. Et puis il a fait partie des premiers journalistes à s'être intéressé de très près à Internet. Ensuite, il était des débuts de Mediapart avant de se lancer dans un nouveau médium, le web docu. Il a réalisé notamment Prison Valley, qui était un peu pionnier dans le genre. C'est une des raisons qui l'a amené à s'exiler au Canada, la patrie du web docu. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il était rentré du Canada quand j'ai vu apparaître son premier tweet. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement.
Le code a changé. De la porte.
On était en novembre 2019, il y a un peu plus d'un an, le mouvement des Gilets jaunes commençait. Et ce que nous montraient la presse et la télé, c'était les ronds-points, les manifs, les vitrines cassées, les projectiles de toutes sortes envoyés sur les CRS. Très vite, David s'est mis à recenser de manière méthodique les manifestants blessés par les forces de l'ordre. Un œil perdu ici, une main arrachée là. Alors, j'avoue que je n'y ai pas tellement cru. Pas aux blessures, je pouvais les constater moi aussi, mais au fait que ça servait à quelque chose de les signaler au ministère de l'Intérieur. Je me suis dit, le Dufresne, il s'est encore lancé dans une cause perdue. Eh ben, j'ai eu tort. Son travail a fini par porter parce qu'il était rigoureux et les violences policières sont entrées dans le débat public. Le gouvernement a dû en répondre. Et puis, à la rentrée, David Dufresne a publié un roman, Dernière Sommation, où il raconte tout ça. Les violences policières, les tweets, les réactions aux tweets. Alors, c'est de la fiction, bien sûr, mais le héros du roman lui ressemble beaucoup et entre les lignes, on y comprend et on y apprend plein de choses. Alors, on a pris rendez-vous pour en discuter. On s'est retrouvé dans un café dont il parle beaucoup dans son livre. Il s'appelle Le Jadis, c'est un café de quartier, parce qu'il y a plein de choses qui me posent question dans cette histoire. Exemple, une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, quand il a commencé à prendre conscience que les blessures étaient nombreuses et sévères parmi les manifestants, et qu'il s'est décidé à agir, pourquoi il l'a fait par le canal de Twitter ? Je connais ses préventions quant aux réseaux sociaux, on en a déjà discuté, et puis c'est un enquêteur, David. Alors, comment il a eu l'intuition que Twitter était le bon lieu pour agir ?
Pour moi, le terrain et le terreau, c'était les réseaux sociaux. Sauf que je voyais bien qu'il y avait une bulle de filtre, d'un côté les gilets jaunes, de l'autre les journalistes, et que ça ne se rencontrait pas. Contrairement à ce qu'on dit, en réalité, les bulles de filtre, elles se percent. Et donc, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je fais le lien entre des images que je vois sur les réseaux sociaux et que je ne vois pas répercuter chez les petits camarades de journalistes, etc., etc. Comme Twitter est devenu le fil AFP nouvelle manière, c'était une façon d'attirer la presse là-dessus. Parce que vraiment, au départ, il y a trois trucs. Il y a un, sidération devant la violence policière, que j'étudie depuis 20 ans avec des livres, avec tout ce que tu veux. La sidération devant le silence médiatique et la sidération devant le déni politique. C'est ces trois choses-là. Et donc là, je me dis, tiens, Twitter, c'est peut-être l'endroit, mais pas une seule seconde, j'imagine que ça va prendre l'ampleur que ça a pris. Mais si tu veux, ça commence comme ça.
Percer la bulle de filtre. Alors, la bulle de filtre, c'est une théorie d'un analyste des réseaux qui s'appelle Elie Pariser. En fait, Pariser, c'est d'abord un activiste et c'est sans doute ce qui donne de la force à ses analyses. En 2011, Elie Pariser a écrit un livre dans lequel il a montré que la manière dont les algorithmes sélectionnent les informations nous enferme dans ce qu'il appelle une bulle de filtre. En gros, Comme il se base sur nos préférences pour choisir ces informations, les programmes nous renforcent dans nos certitudes. À l'époque, c'était assez visionnaire parce qu'on croyait qu'Internet, c'était la confrontation à l'altérité. Or, plus les informations sont devenues nombreuses, plus il a fallu les sélectionner pour que nos fils d'actualité restent lisibles. Du coup, le rôle de ces algorithmes est devenu essentiel et les bulles de filtre sont devenues plus opaques. Alors, c'est intéressant que David dise qu'on peut les percer, mais en l'écoutant, je me dis que ça ne peut être qu'à certaines conditions, et je suis sûr que la forme du message y est pour beaucoup. Avec Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement, David Dufresne, il a tout de suite trouvé une forme. Le fait de commencer par ce « Allo », le fait de les adresser, ces tweets, à Place Beauvau, pourquoi pas à Police Nationale, ou à Emmanuel Macron, ou à Christophe Castaner. Et la formule, c'est pour un signalement qui sonne étrangement. Et puis aussi, leur côté très factuel, une date, un lieu, un numéro. Il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Alors, je veux qu'ils m'expliquent cette forme.
Allô ? C'est... Allô la police ? C'est-à-dire ça ? Ça montre que j'ai 51 ans. Il y a un truc comme ça, bon. Place Beauvau. Pourquoi Place Beauvau ? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le maintien de l'ordre, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire la police, la cité, le politique. Le flic qui utilise son LBD m'intéresse moins que le peuple qui a accepté que des gens décident pour eux quelle arme on pouvait utiliser, à quel moment, etc. Donc Place Beauvau, c'est allô, le politique. Et c'est pas Castaner, c'est politique au sens noble, c'est l'État. Allô, l'État. C'est pour un signalement. Alors là, c'est pour un signalement, c'est très simple. C'est l'idée policier du terme, c'est-à-dire je signale qu'il s'est passé ça. C'est un signalement. Voilà, moi je documente, voici la photo, voici la vidéo, voici le lieu, voici la date, voici ce qui s'est passé, il n'y a aucun commentaire, à vous de faire votre travail. Le numéro de signalement, c'est parce que au début, je vois qu'il y a beaucoup de violence, et à un moment donné, cette numérotation, en fait, elle va avoir un sens, c'est qu'elle va montrer le caractère systémique, non pas de mon travail, mais des violences policières. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système, on est rentré dans une façon de faire, qui, de mon point de vue, est inadmissible. Et pour le reste, c'est toujours factuel. Il n'y a pas de commentaire. C'est probablement ce que j'ai fait de plus simple de tous mes travaux, si tu veux, que ce soit mes web-documentaires qui pouvaient durer 8 heures, etc., qui étaient complexes. Qui étaient... Là, je suis allé à l'essentiel, si tu veux. Mais c'est aussi parce que c'est Twitter. Enfin, c'est le langage. Bon. Donc, allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro temps. Et au bout du deuxième ou troisième signalement, tout est en place.
Mais il y a autre chose. David aurait pu créer un compte ad hoc, ouvert pour l'occasion. Mais non, il a tout fait à partir de son compte personnel, en son nom. Pourquoi ?
Pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un pays où on peut encore agir en son nom. C'est-à-dire que je comprends très bien que dans certains pays, on soit obligé de passer par l'anonymat. Pour moi, ça me semblait extrêmement important parce que si tu remets en cause, tu dois pouvoir aussi t'afficher, enfin dire qui tu es, d'où tu parles, etc. Pour moi, c'est extrêmement important.
Alors, moi, comme je te suis, puis voilà, puis j'aime bien ce que tu fais, donc tu vois.
J'essaie d'expliquer à David Dufresne quelque chose d'un peu délicat, quelque chose que j'ai ressenti sur le moment et qui n'est pas complètement facile à exprimer. Quand j'ai vu ses premiers tweets à Allo Place Beauvau, j'ai vu une forme de naïveté, comme si lui, David Dufresne, depuis son compte Twitter, il allait réussir à alerter l'opinion publique sur ce qui relevait manifestement d'une stratégie politique, au moins d'une stratégie de maintien de l'ordre approuvée par le gouvernement. J'avoue, j'ai d'abord trouvé ça à la fois naïf, bon, et un peu mégalo de penser qu'on allait l'écouter lui. Alors, manifestement, je n'ai pas employé les bons mots et il s'est un peu vexé.
Pourquoi mégalo ?
Parce que ce truc de toi, tu vas signaler à la police, tu vas leur montrer un truc qu'ils ne voient pas alors qu'ils le savent très bien. Mais en même temps, la mégalomanie, c'est le truc qui te fait penser quand tu fais un bouquin qu'il va changer le monde. Et en même temps, je me dis, bon, il y a une naïveté dans le fait que ça va pas marcher. Moi, je pense que ça va pas marcher. Et en même temps, ça marche. Donc, je suis contredit dans tout, tu vois. Comment t'expliques le truc ?
Ben, sincèrement, je me pose pas la question. C'est-à-dire que ça démarre dès lors qu'effectivement, on prend la parole dans l'espace public. Il y a un côté... c'est, en fait, c'est assez violent. Mais en fait... on se fait violence d'abord à soi-même. Enfin, je bah ouais, parce que tu sais que tu vas prendre des coups. Je veux dire, surtout quand tu t'attaques à la police. Mais moi, si tu, je pleure, moi. En réalité, j'écris parce que je pleure. Donc, je vois ces vidéos, je pleure. Je vois ces lycéens qui sont mutilés. Je vois ces gilets jaunes qui perdent un œil, qui perdent une main. Je pleure. La naïveté, je reconnais. Alors ça, la naïveté, je prends. La mégalomanie, non.
Non, mais mégalomanie, celle de Don Quichotte. Tu vois ce que je...
Oui.
Voilà, bon, c'était vraiment pathétique comme tentative de justification. Il est gentil de me donner raison sur la naïveté.
Code a changé.
Passons à autre chose assez vite. Ce qui m'a impressionné dans ces tweets à Allo Place Beauvau, c'était à la fois la vitesse à laquelle ils arrivaient après l'événement et la rigueur de la recension. Je me suis dit que ça nécessitait une forme d'organisation. Enfin, je veux qu'ils me la détaillent. Tout ce que nécessite un tweet s'il veut être inattaquable.
Au bout d'un mois, on met en place tout un système qui fait que chaque tweet bascule automatiquement dans une base de données. Cette base de données, on est trois à vérifier. Voilà. Et assez rapidement, je donne un petit mode d'emploi aux gens. qui m'écrivent et je leur dis bah, j'ai besoin de tel document, telle source, etc., etc., etc. Et donc au fil des mois, ce qui a été extraordinaire, c'est que plus ça allait, plus les signalements arrivaient avec le certificat médical, la copie de la plainte, parfois une radio médicale, j'entends, et à chaque fois des documents attestant des faits.
Ce qui a été frappant pendant tous ces mois qu'a duré le mouvement des Gilets jaunes, c'était bon. Avant tout, la violence dans la rue, bien sûr, mais aussi celle qui sévissait dans les réseaux. Parfois, j'allais voir les commentaires sous les tweets de David Dufresne, beaucoup de soutien, mais aussi des choses terribles, des menaces, des insultes. Parfois même, ça sentait l'attaque organisée. On a même essayé de le piéger avec un faux signalement. Une seule fois, ça a marché, sur 861 signalements. Le message est resté très peu de temps en ligne avant qu'il le retire. Ça n'a pas empêché que des gens l'attaquent, alors même que son travail n'a pas été remis en cause autant que j'ai pu le constater. Il y a évidemment des divergences d'interprétation sur les termes, notamment le gouvernement qui récuse le terme de violence policière, mais il ne me semble pas que les chiffres aient été remis en question, ni même les cas, et pourtant des torrents d'horreur. Et je me demande comment il a supporté ça, David Dufresne.
La haine des trolls, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est dur.
C'est comment?
Mais le plus navrant, c'est pas les insultes, c'est pas les saloperies, c'est pas le nombre de trucs. Je veux dire, il y a même eu un syndicat de commissaires qui s'est répandu en racontant des saloperies sur moi, en disant que j'avais relayé des fake news, ce qui était faux. Les exemples qu'ils donnaient, je les avais jamais relayés. Et le plus navrant, c'est même pas ça. Le plus navrant, c'est au fond, est-ce que on est dans une société de discussion? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à discuter? Est-ce que vous êtes prêt à débattre? Ou votre seul truc, c'est de démolir l'autre par tous les moyens, par les moyens les plus dégueulasses? Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, je me disais, bon, on a touché un truc, si tu veux.
Dans son roman Dernière Sommation, David Dufresne évoque des moments où son personnage en a marre, où il est obsédé par les images, par les messages, par les insultes. J'imagine que c'est une manière assez pudique de parler de lui. Alors, évidemment, c'est incomparable avec ce qu'ont vécu les familles, leurs victimes, les copains de manif, ou même les témoins. Mais quand même, on ne sort pas indemne de ces journées et ces nuits collées à son écran, à documenter la violence et ses effets.
Les deux premiers mois ont été extrêmement durs, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'images de violence. Je n'étais pas préparé à ça. Je veux dire, tu ouvres une vidéo, tu ne sais pas ce qu'il y a. J'ai discuté après avec des gens d'ONG qui m'expliquaient que il y avait des accompagnements psychologiques. Moi, j'avais rien. Moi, je me suis tout pris dans la figure, si tu veux. Tout. Donc, c'était extrêmement dur. Un sommeil très léger, très au sens... je me réveillais. J'étais envahi par ça, mais complètement envahi. Et puis, au bout d'un mois, il y a des gens qui vont m'aider par leur travail, par leur rigueur, des informaticiens, des infographistes, un cartographe et deux femmes extraordinaires, Perline et Domaine, qui vont énormément m'aider à consolider la base de données, à vérifier, survérifier. Et donc, j'allais aussi à des manifestations à Paris pour sentir l'ambiance, quoi, sentir ce qui se passait, etc. Et puis, à un moment donné, ça bascule. Au bout d'un mois et demi, je dois passer une deuxième phase. C'est non seulement faire mon travail, mais l'expliquer. Et donc là, c'est notre pression qui arrive, voilà. Et j'ai tout sacrifié pour ça, quoi. C'est-à-dire que j'avais des projets de... J'ai tout reporté, emporté par le truc, quoi.
Emporté par le truc, dit David. Bon, d'accord. Mais est-ce que c'était seulement politique, cette absorption dans l'événement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est jouée en même temps? L'intérêt que David Dufresne ait écrit un roman, c'est peut-être qu'il en dit plus que s'il avait fait un récit journalistique de tout ça. Par exemple, à un moment, il écrit à propos de son personnage, qui lui ressemble vraiment beaucoup, c'était une addiction, le gazouillis de l'oiseau bleu, son crack, une saloperie qui monte au cerveau, décharge le plaisir et laisse sur le carreau jusqu'à la prochaine dose. Bon, c'est assez explicite comme comparaison. Et on comprend assez bien ce que ça peut être l'excitation qu'il y a à constater que les tweets circulent, qu'ils sont partagés, commentés, qu'ils ont un effet. Bon, ça doit être étrange que se mêle à ce qu'il appelle lui-même la jubilation du digne du retweet, cet acte censément politique et désintéressé.
Oui. Depuis 1994 et la première fois que j'entends le bruit du modem, je suis tombé dans une forme d'addiction. Et Twitter étant la phase la plus intense de cette addiction. Voilà. Mais on sait très bien, hein, l'homme le plus puissant du monde est encore plus camé que moi. Voilà, ça a quelque chose de terrible, mais je trouve que de l'admettre, ça permet déjà la preuve d'en parler.
Oui, oui, mais tu vois, le côté paradoxal du truc, c'est que toi, tu fais un travail qui est un travail politique, hyper violent, hyper dur, etc. Et en même temps, tu tombes aussi dans la jouissance du retweet. Tu vois le côté paradoxal du truc ?
Oui, mais attention, la satisfaction, c'est pas une satisfaction égocentrique, c'est de se dire « bon, bah, j'ai touché quelque chose, ça porte ». Et d'ailleurs, je te jure que c'est vrai, j'ai pas vu le moment où je suis passé de 15 000 followers à 40 000. Je l'ai pas vu. C'est un jour, ma compagne qui me dit « mais regarde ». Par contre, effectivement, il n'y a pas d'innocence, donc autant accepter que... Bah, y a des petits travers. Bah, ce travers, je le raconte. Mais il est au service de quelque chose. Et à ce moment-là, ce quelque chose, c'était est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe ? Voilà. Et donc, les retweets, c'était une façon de se dire ah bah tiens, alors lui, ok. Donc ça monte. Voilà.
C'est drôle parce que quand il dit ça, David Dufresne, d'abord, je n'arrive pas à le croire totalement. Je me dis que forcément, il a dû y trouver une forme d'exaltation, voire de plaisir. Et puis, je l'écoute, je le réécoute, et je me dis que si je n'arrive pas à le croire, c'est parce que moi, je vivrais comme ça. Moi, je jouirais de voir les likes et les retweets. Je n'arriverais pas à ne pas jouir en constatant que ma parole porte. Alors bon, il y a deux solutions. Soit je suis plus lucide que David Dufresne, soit, et c'est plus probable, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres d'actes désintéressés. Voilà, bon, c'est un constat un peu triste, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Son problème à David, ce n'est donc pas le narcissisme, c'est l'addiction. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le roman, il relie cette tendance à sa jeunesse punk. Une phrase m'a fait rire. Il y parle toujours donc de ce héros qui lui ressemble beaucoup, et il écrit « Sa dépendance était sa façon, moderne et efficace, stupide et parfaite, de rester raccord avec les idéaux punk rock de ses 17 ans. » Alors là, j'avoue qu'il faut qu'il m'explique, David, le rapport entre son usage de Twitter et sa jeunesse punk.
Ah oui, pour moi, il y a une filiation, si tu veux. La filiation, c'est l'idée do it yourself, hein, c'est-à-dire je ne demande pas l'autorisation pour monter un groupe, je ne fais pas le conservatoire de musique, j'y vais à l'énergie. Je ne demande pas l'autorisation pour parler de telle ou telle chose, je considère que chacun est légitime pour apporter son grain de sable. Voilà. Et oui, il y a un côté, alors, pour le coup, punk. Je déboule, hop, je branche l'ampli, je mets la guitare, on y va. Ça sonne pas, c'est comme ça.
Puisqu'on parle de musique, à un moment du roman, le personnage, qui ressemble beaucoup à David Dufresne, se retrouve à débattre sur un plateau télé avec un policier. Et l'animatrice lui pose une question. « Vous êtes donc un révolutionnaire ?» Et là, le personnage répond quelque chose d'intéressant. Il dit « Je crois aux gens qui, d'une main souvent tremblante, lèvent leur smartphone face aux violences policières. » Alors là, moi, j'ai deux réactions. La première... Je pense au magnifique morceau de Jill Scott Heron, Revolution Will Not Be Televised, une critique en règle des médias de masse qu'il chante, Jill Scott Heron, en 1970. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'évoque aussi, David Dufresne, dans son roman, la chanson de Jill Scott Heron. Mais pour dire justement que le chanteur s'est peut-être trompé. Et que la révolution, elle sera télévisée ou au moins filmée ou au moins visible. Voilà, penser à Jill Scott Heron, c'était donc ma première réaction à ce que dit le personnage de David dans son roman. La deuxième réaction, c'est de me dire bon, David Dufresne a eu une jeunesse punk, il a fait un livre sur Tarnac, j'ai du mal à croire qu'il considère que lever son smartphone dans une manif pour filmer, ce soit ça faire la révolution.
Les violences policières dans les manifestations ont toujours existé. Là, on en a la preuve. Il faut du courage. Il faut du courage pour maintenir son téléphone devant des policiers qui peuvent être menaçants. Pas toujours, mais qui peuvent l'être. Il faut du courage. Pour les policiers, c'est devenu une révolution. Et d'ailleurs, ce à quoi on a assisté au fil des semaines et des mois, c'est deux choses. Un, une anonymisation des policiers de plus en plus affichée, paradoxalement. Cagoule, pas de RIO, c'est-à-dire le numéro de matricule portant obligatoire, etc., etc. Et de l'autre côté, de plus en plus de vidéastes, de journalistes, de photographes visés. Hein. Donc, ça montre bien que ça agit sur la police, cette question-là, d'être filmé, etc. Bon. Enfin, moi, j'estime que, par exemple, tous ces gens qui font des Facebook Live, qui sont des heures et des heures en direct, etc., sont en train d'écrire quelque chose de nouveau, réellement.
Le geste, d'accord. Mais est-ce que c'est seulement le geste qui est commun ? Parce que je me demande parfois s'il n'y a pas en commun aussi une forme de fascination pour la violence. Des termes sont apparus il y a quelques années. Violence porn ou riot porn, pour désigner ces images d'émeutes qui envahissent les écrans quand les manifestations se durcissent. On les voit sur les chaînes d'infos en continu. D'accord, mais j'ai l'impression d'en trouver la trace aussi chez certains journalistes qui live-stream les manifestations depuis le cortège de tête.
Reculez !
Si tu regardes BFM, tu reçois les pavés. Si tu regardes les Facebook Live, tu reçois les coups de matraque. La perspective n'est pas du tout la même. Ensuite, certains historiens ont bien démontré que s'il n'y avait pas eu Radio Barricade, Europe 1 en 1968, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Cette faculté qu'avait cette TSF à aller sur une barricade et à dire « Rue Gay-Lussac !» En fait, c'est toujours les mêmes archives qu'on entend. Bah oui, et en ça, moi je trouve ça très intéressant de réfléchir à la position de chacun, y compris du vidéaste pro, semi-pro, amateur, etc., de la télévision avec des gros moyens, etc., etc. Oui, le geste est le même, filmé, la perspective n'est pas du tout la même.
Et même si ça n'est pas leur intention, et même si eux sont là pour documenter les violences policières, la question se pose au moins du point de vue de la réception. Parce que est-ce que les gens qui regardent ces images sur les réseaux sociaux ne les regardent pas aussi pour de mauvaises raisons ? Je sais que c'est parfois mon cas. Et je me souviens, l'an dernier, avoir fait un trajet de train un samedi soir, après une journée de manifestation des Gilets jaunes qui avait été violente. Et assis pas loin de moi, un jeune a passé tout son temps à regarder sur son ordinateur des images de la manifestation, mais seulement des images de baston. Et ça, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi en faire.
La réponse, elle est politique. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on dépolitise cette violence de part et d'autre, c'est-à-dire que si on ne veut pas lui reconnaître côté émeutier ou manifestant insurrectionnel, pour employer des termes, si on leur refuse l'élan politique, qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas la question, mais de ne pas voir que derrière, par exemple, le Black Bloc, il y a une volonté de provoquer l'État afin que l'État montre, selon le Black Bloc, son vrai visage, celui de la répression, effectivement, on est dans le riot porn. Si on ne voit pas que la violence, les violences policières sont politiques et sont permises par le politique, on est dans la fascination de la violence. Moi, j'ai peur de la violence. Ça ne m'empêche pas d'être au milieu des lacrymos, mais ça me fait peur. En revanche, tu as raison, si on enlève l'aspect politique de part et d'autre, on n'est plus que dans un truc de spectacle qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les enjeux en place de l'étoile. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le Fouquet's ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a le 1er mai ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des mensonges comme la salpêtrière ? Qu'est-ce que ça signifie, tout ça ?
Tu succombes jamais à la fascination pure des images, sincèrement, si tu creuses au fond de toi.
Le paradoxe, c'est que s'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le son. Il y a des cris que j'ai encore en tête. Voilà, ça c'est vrai. Il y a des hurlements que j'ai encore en tête. Plus encore que des images. Il n'y a pas plus violent que les images de Mantes-la-Jolie. Pourtant, il n'y a pas une goutte de sang. C'est 151 gamins agenouillés, entravés. Et à la fin, ce vidéaste qui est policier et qui dit
« Voilà une classe qui se tient sage. »
Voilà une classe qui se tient sage. Je veux dire, là on est dans la violence, mais... Enfin, j'ai pas de mots, quoi.
Y a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ma jeunesse était super, même si parfois j'étais déçu d'elle. On a rien à part la tête et le cœur. J'suis dans la boue en train de maqueter le skeu dans ta concurrent qui va péter le seum. J'suis bloqué dans mes gâchites, j'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, j't'ai déjà dit, ton énergie de fils de pute est négative.
J'ai prononcé un mot qu'il fallait pas et t'es parti. Des histoires qu'on efface comme des emojis. C'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices.
Dis-moi comment tu voudrais que je sois touché. Tu voudrais que je sois jugé, que je sois coupable. Je reste attentif si jamais quoi ou qu'elle. Tellement d'histoires, tu comptes plus les coupables.
Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le T-Rex. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le T-Rex. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Je vais pas révéler nos chiffres, maintenant je peux plus compter les notifs. Je te laisse écouter la mélodie. C'est jamais trop lu les gros titres. Ego, je travaille mes croquis. Le faire pour de vrai et le leitmotiv.
T'es dans la ville étincelle, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches.
Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le T-Rex. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le T-Rex. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser.
T'es dans la ville étincelle, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches.
Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le T-Rex. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser.
T'es dans la ville étincelle, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles.
Le code a changé.
De la porte.
Ces dernières années, plein de jeunes journalistes sont apparus pour documenter les mouvements sociaux dans les réseaux. Alors bon, je sais que certains leur refusent le statut de journaliste au nom du fait qu'ils n'auraient pas de carte de presse ou qu'ils seraient militants, mais bon, c'est un débat absurde étant donné qu'on peut tout à fait faire un travail de journaliste sans carte de presse et que le militantisme, c'est une manière très pratique de désigner celui qui assume d'avoir un point de vue politique, ce que beaucoup d'autres ont d'ailleurs sans l'assumer. Bon, bref. En un sens, David Dufresne, c'est un journaliste à l'ancienne. Alors, j'aimerais savoir comment il les regarde, ces jeunes journalistes. Comment il considère leur apport? Qu'est-ce qu'il montre qu'on ne voyait pas auparavant?
Pour moi, vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils apportent une autre perspective, ils complètent. Ils sont le contre-champ, voilà. Ils sont le contre-champ qui n'est jamais là. Je fais une comparaison historique. 17 octobre 61, il y a deux photos, quoi. Et ces deux photos, on va mettre des années à comprendre ce qu'elles disent. Voilà. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas si c'est 100, 200 ou plus Algériens jetés, noyés dans la Seine. Et ça, c'est plus possible. Ce que j'aime dans les lives, c'est on se rapproche de l'âge d'or du documentaire, le cinéma vérité, le cinéma brut. Il y a quelque chose comme ça qui me plaît beaucoup. Moi, tout ce qui apporte de la connaissance me convient.
Le problème, c'est que si on parle en termes d'efficacité politique, eh ben, le fait de voir les violences policières, ça ne les a pas diminuées.
Alors ça, c'est la grande question. Que se serait-il passé si il n'y avait pas eu cette prise de conscience, parfois jusque dans les rangs policiers, par les institutions internationales, etc. On pourra quand même remarquer que le LBD est un peu moins sorti à partir du printemps. Il est un peu moins sorti. C'est très très compliqué, là. Très très compliqué.
Dans le roman, David Dufresne parle des moyens technologiques à disposition de la police pour faire un travail de surveillance. Alors, il y a les caméras dites de vidéoprotection, qui sont de plus en plus présentes dans les villes. Et puis, il y a aussi les valises XRY. Alors ça, ce sont des sortes d'aspirateurs à données. La police les pose à un endroit, et dans un rayon de quelques centaines de mètres, elles aspirent l'intégralité du contenu des téléphones qui passent dans le coin. Ça veut dire ce qui a été téléchargé dans le téléphone, les dossiers, les photos, la musique, les adresses, les contacts, les SMS, les MMS, l'historique des recherches, etc. Et à partir de ça, la police peut aussi demander des données sur les numéros de téléphone qui ont été joints ou que cet appareil a essayé de joindre. Il y a donc ce type d'outil. Mais David parle aussi d'un système qu'il appelle Synapse. Et ça, je ne connaissais pas. Mais bon, c'est un roman. Donc, Synapse, ça existe vraiment ?
Oui, c'est à la préfecture de police. En fait, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On sait qu'ils sont à peu près 6-7, aidés par ailleurs, je crois, par des étudiants en Sciences Po, etc. Et c'est une cellule qui est chargée de réfléchir au maintien de l'ordre et notamment de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque c'est un champ de bataille, on va dire. C'est-à-dire la conquête de l'opinion, elle peut se faire aussi là, etc. Donc, il y a ce service. Les renseignements regardent énormément les réseaux sociaux. Alors, tout un travail aussi judiciaire qui peut être fait, c'est-à-dire que parfois, pour retrouver certains des manifestants qui ont scandé « Place de la République, suicidez-vous », la police est allée regarder plein de vidéos, plein de photos, etc., pour voir telle personne qui sort du métro 2 heures avant. Alors, il y a les caméras de surveillance, mais il y a aussi ensuite cette surveillance des réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr.
Il y a un peu moins de 10 ans, j'avais invité David Dufresne à une émission que j'animais sur France Culture et je lui avais demandé de se livrer à un exercice qu'on avait appelé « autobiographie numérique ». L'idée était de faire raconter à quelqu'un sa vie, mais du point de vue de son rapport aux ordinateurs et aux technologies. L'autobiographie numérique de David était assez étonnante parce que, depuis sa rencontre avec Internet, il n'avait cessé d'espérer en ce que les réseaux pouvaient offrir en termes de créativité, d'émancipation ou de renouvellement du journalisme, et il n'avait cessé aussi d'être déçu. Alors c'était très étonnant cette constance dans l'alternance de l'enthousiasme et de la déprime. Alors évidemment, quand je le vois aujourd'hui réussir à faire entrer dans le débat public la question des violences policières grâce à Twitter, je me demande dans quelle mesure toute cette histoire n'a pas réenchanté son rapport à Internet.
Si on regarde, il y a encore 20 ans, pour qu'une parole non autorisée arrive dans un journal, il fallait avoir tué son voisin. Ou avoir quelqu'un être copain avec la personne qui s'occupait du courrier des lecteurs à Libération ou au Monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Cette libération de parole, permise, entre autres, par des outils technologiques comme le téléphone portable et des plateformes pourtant détestables, profondément détestables, dans leur essence même, comme Twitter ou Facebook, etc., cette libération de parole, à un moment donné, elle a réenchanté mon monde. Mais, je dois dire, que j'ai aussi découvert une libération de parole parfaitement odieuse. Mais je veux dire, mais les gens sont fous.
Et ça, cette folie-là, tu la soupçonnais pas à ce point-là ?
Non, sincèrement non. Et donc là, effectivement, moi j'endosse pas ça, si tu veux. Je trouve que si c'est le prix à payer de la liberté, c'est très très cher. J'ose penser que ça va s'arranger. C'est mon côté optimiste, mais par contre effondré en même temps. Mais effondré, vraiment, vraiment. Ce qui fait qu'à certains moments, y a une envie de désertion. Hein. D'où l'écriture.
L'écriture, justement. Celle de Dernière Sommation. Parlons-en un peu quand même. Quelque chose m'a frappé. Dans le livre, David Dufresne reproduit des tweets, décrit des vidéos visionnées dans les réseaux sociaux, et même reproduit dans son intégralité la vidéo de Jacqueline Mourot, dont on sait quelle importance elle a eue, puisqu'elle a été un des points de départ du mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai écouté très tard, cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il s'y passait quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines, on est traqué. On monte dans notre voiture, de toute façon. On est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV... Hein, mais vous les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Mais où va-t-on, quoi ? Où va la France, monsieur Macron ? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez.
Pourquoi David Dufresne a décidé de la reproduire totalement dans son roman ? C'est pas rien, ça. Il considère qu'il y a de la beauté là-dedans ?
Ah oui, c'est magnifique parce que c'est l'époque, c'est quelqu'un qui se filme, c'est le selfie. Et c'est une colère saine, quoi, moi je trouve. Mais... je la retranscris, j'enlève juste les hésitations, parce que je trouvais que c'est... au départ, je les avais laissées, et puis je trouvais que ça ne lui rendait pas hommage. Mais tu enlèves le son, tu enlèves l'image, et tu gardes que le texte, le médium et le message. Et là, tu te rends compte que la force du texte, à moi, je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire la construction, alors que c'est totalement improvisé, son cheminement, comment elle va du début à la fin, avec cette idée à la fin partagée, cette idée de réseaux sociaux, bon voilà. Et si tu veux, bah, le cut-up, ça fait partie, c'est une forme de littérature, hein, voilà. Donc cette idée d'intégrer dans un roman des tweets, des retranscriptions de vidéos, même une dépêche AFP, c'est une façon de dire, dans ce qui fait récit, il y a aussi ça, voilà. Oui, oui, moi je peux trouver des tweets magnifiques, mais magnifiques. Pas forcément ceux qui veulent l'être, mais c'est le moment où il faut, ça tombe là, etc.
Bon, on termine sur un peu de beauté, au moins un peu d'art, tout ça. Et d'autres choses, c'est dans Dernière Sommation de David Dufresne, c'est paru chez Grasset, merci à lui. C'était Le Code a changé, en partenariat avec Faber-Novel.